Concorde 2022, Michel Bonnet.
Wait until you know.
Bonjour à tous et à toutes. Nous voilà partis vers la fin de l'année. Maintenant, on approche de 2022, n'est-ce pas? Et puis, on est entré en hiver. Si vous écoutez en direct, peut-être que vous pouvez regarder par la fenêtre les flocons de neige qui commencent à venir à Cordes, la première neige. Et on aura l'occasion sans doute d'en revoir d'ici la fin de cet hiver, quoi. Voilà. Eh bien, nous continuons à nous préparer à ce centenaire. Et une chose qui m'étonne sans arrêt, je l'ai déjà dit plusieurs fois, et je le redis parce que il me semble que ça devient de plus en plus important, je trouve que peu de gens se rendent compte à quel point il y a un lien entre l'époque de la fondation de Cordes, du XIIIe siècle, et notre époque aujourd'hui. Et en particulier, avec ce bouillonnement intérieur, cette fatigue, ce stress dans lequel nous vivons. Je pense que, peut-être pas tout le monde, mais en tous les cas, je l'ai ressenti. Par exemple, il y a des réunions où normalement on irait, et ben on n'y va pas. Oh non, c'est fatigant, ceci, cela, on n'a pas envie de réfléchir, tout ça. Et on reçoit tellement d'infos de droite et de gauche avec le changement climatique, avec ceci, avec cela, que à l'intérieur de nous-mêmes, on est extrêmement fatigué. Et je voudrais justement aujourd'hui évoquer avec vous ce genre de fatigue, ce genre de stress qui était une marque du pays cordé, une marque des gens d'Occitanie bien sûr, mais on parle de Cordes évidemment. Il y a 800 ans. Il faut pas croire que les choses étaient cool, on était content, on bâtissait des nouvelles maisons, on lançait une ville, c'était super bien. Non, pas du tout, c'était les gens étaient vraiment très très perturbés parce qu'ils savaient pas ce qui allait se passer comme nous en ce moment, et ils avaient des tas de problèmes à gérer. Et c'est les problèmes de l'histoire, tout simplement, de la vie ordinaire. Mais il y avait un problème tout à fait particulier qui était extrêmement stressant pour les populations, comme un peu comme pour nous aujourd'hui. Vous allez être étonnés. C'est une question très matérielle, les sonneries des cloches. Je vous invite aujourd'hui à réfléchir aux cloches du pays cordé il y a donc 800 ans. Il faut nous mettre dans l'ambiance de cette époque-là pour se rendre compte. On a beaucoup de mal à saisir ce problème-là. Et réfléchir à la place des cloches, à la place des sonneries de cloches dans la vie des cordés de cette époque-là, ça peut être très très utile. Il faut se rendre compte que chaque église, chaque chapelle, chaque monastère même, bien sûr, avait des cloches, au moins une cloche. Et donc, tout le pays cordé, toute la France, disons même pour aller vite, était couverte par des endroits où les cloches pouvaient sonner. Regardez ici, on a Cordes, mais on a les cabanes, on a Vendrac, la Capelle Ségala, Vaour, etc. Donc partout, il y avait donc dans toutes ces chapelles, dans toutes ces églises, il y avait quelqu'un qui était chargé de sonner les cloches. Quelqu'un, c'est-à-dire, bon, le curé quand c'était une paroisse, ou un moine quand c'était dans un monastère, quand c'était une simple chapelle, à Saint-Pierre-de-Crantoul, des choses comme ça, c'était quelqu'un choisi par la communauté. Et c'était extrêmement important, parce que ça rythmait toute la vie de la population qui était autour de ce clocher, disons, qui était sur la région. Parce que ces cloches, comme elles étaient près les unes des autres, les villages étaient près les uns des autres, on les entendait très bien. Aujourd'hui, vous montez, je ne sais pas, mais vous allez sur la Capelle Ségala, vous entendez très bien le clocher de cordes aujourd'hui, et à plus forte raison à cette époque-là. Vous voyez, donc. Il y avait comme cela une sonnerie de cloche pour le matin, pour dire aux gens « Hop, on commence la journée », une le soir pour dire « Stop, on arrête de travailler, c'est la fin de la journée ». Mais il y avait, en plus de cela, tous les autres moments de la journée qui étaient rythmés comme cela, par des sonneries de cloches. Et il y avait évidemment tous les événements importants pour la communauté qui provoquaient immédiatement une sonnerie de cloches. Un baptême, une naissance, un enterrement évidemment, il fallait rassembler tout le monde, etc. Et puis, quand il y avait des processions, il y avait beaucoup de processions pour un oui, pour un non, donc il fallait appeler les gens, accompagner la procession, bref. On a du mal aujourd'hui à imaginer même la diversité de ces cloches. Parce que dans une petite chapelle comme à Sarmaz, par exemple, bon, il y avait un clocher avec une cloche, ou à Saint-Jean, pareil, etc. Mais d'autres endroits, il y avait deux, trois. Bon, dès qu'une paroisse était un peu plus, avait un peu d'argent, ou que quelqu'un voulait faire un cadeau, etc., on mettait une deuxième cloche avec chaque fois un son différent, parce qu'elle avait un but différent. Dans certaines grandes églises, il y en avait comme ça. Beaucoup de cloches, imaginez Sainte-Cécile aujourd'hui à Albi. Bon, il y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même un carillon. On a des endroits, même aujourd'hui, par exemple, en France, il est hyper réputé. Vous le connaissez peut-être sans doute, le clocher de la cathédrale de Rouen, en Normandie, qui a un carillon de 32 cloches différentes. 32 cloches avec un son différent. Il y a de quoi faire de la musique, il y a de quoi de jouer à la place d'un orchestre, etc. Et ce qu'il y a, c'est que, pour en revenir au XIIIe siècle, au Moyen-Âge, à cette époque-là, chaque cloche avait un son particulier parce qu'elle avait un rôle particulier à jouer dans la vie des gens. On appelait les gens. Avec telle cloche, on savait qu'il y avait telle réponse qu'il fallait donner, avec telle autre cloche, telle autre. On va s'arrêter une minute avant de revenir sur ces sonneries de cloche.
CFM.
CFM Radio.
CFM Cordes.
Traverse et reviens.
vaste promesse, les pauvres adages, tous à la mer après naufrage. Venant détresse, mais qu'enfin cesse ton arrimage à cause de l'est, à l'abordage. Notre tristesse traverse, traverse.
Michel Bonnet. Nous continuons donc à essayer de voir un peu l'ambiance du pays cordé et de la région il y a 800 ans. Et pour ça, on parle des cloches. Il faut bien se rendre compte qu'à cette époque-là, il y a un phénomène que vous connaissez bien, on ne va pas en reparler longtemps, mais s'est développé à partir du XIe siècle une foule de monastères, des congrégations diverses, des ordres religieux divers, mais des groupes aussi de chrétiens par-ci par-là qui vivaient en communauté. Bref, on a une prolifération énorme de monastères, il y en a partout. Autrement dit, pour en revenir au thème de notre journée, aujourd'hui, là, il y avait des sonneries de cloches partout où il y avait des monastères. Alors, certaines cloches dans les monastères ne sortaient pas beaucoup parce que c'était dans les couloirs juste pour appeler, pour réveiller les moines la nuit et venir à matine, des choses comme ça. Mais il y en a beaucoup, ça sortait bien sûr. En plus, les monastères étaient pas enfermés dans des grands murs de pierre, toujours. Donc, la vie des monastères était réglée par des sonneries de cloches et... Par conséquent aussi, les gens des alentours qui entouraient les monastères, soit qui habitaient contre les monastères parce que ils étaient des paysans au service des monastères, ou parce que leur habitation se trouvait là comme ça. Donc, même la vie des populations autour des monastères était, elle aussi, rythmée en quelque sorte. Même si on n'était pas... obligé de s'en occuper, on entendait les sons des populations qui étaient autour des monastères. Et pour se faire une idée de ce que ça représente, prenez par exemple ici l'abbaye de Gaillac, donc c'est très précis, elle avait 12 succursales entre Gaillac et la Grésigne. Donc tout le coin jusqu'à Tonnac, tout ça, par-ci, par-là. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme s'il y avait eu 12 ou 13 monastères, parce que ces succursales, les unes, si elles étaient importantes, on les appelait des prieurés, et il y avait un ou plusieurs moines, des fois, là, qui vivaient là, ou quelquefois c'était simplement une métairie, une maison, on appelait ça une grange, ou techniquement parlant, les historiens appellent ça des granges d'abbayes, où on rassemblait le travail, la récolte, des choses comme ça. Et là aussi, il y avait toujours un religieux, un représentant de l'abbaye, qui était là à demeure et qui, par conséquent, était obligé de faire sonner une cloche qu'il y avait dans la grange ou qu'il y avait dans ce prieuré. D'un côté, lui, pour rythmer son propre travail et par là sa relation avec la Grande Abbaye pour dire qu'il vivait au même rythme que la Grande Abbaye, mais également pour inviter les gens autour et leur dire attention, là il faut s'arrêter de travailler. Bref, partout cette prolifération de monastères rappelait à tous les gens qui vivaient dans les campagnes ces obligations des moines. Mais ces obligations des moines, elles portaient aussi sur la population ordinaire. Parce que les cloches étaient là, certaines, pour rappeler qu'il fallait aller se mettre au travail, c'était le début du jour. Ou bien il fallait s'arrêter de travailler parce que ça allait être le début de la nuit. Ou bien il fallait s'arrêter pour parce que à partir de maintenant c'était le carême et que donc il fallait pas faire tel et tel travail ou bien le dimanche, des choses comme ça. Il y avait comme ça donc toute une série d'obligations qui revenaient en permanence avec ces sonneries de cloches. Et je ne sais pas si on y réfléchit un peu, mais ça représente une emprise énorme. J'ai l'impression que, pour sentir ça, vous voyez, ceux parmi nous qui ont une voiture, et je pense qu'on doit être assez nombreux à avoir une voiture, aujourd'hui, on est là en partie stressé avec le problème des radars. Hein, on prend la voiture, on se dit attention, en arrivant à Mascabrière, avant de descendre vers Albi, il y a un radar à cet endroit-là, mais il y a beaucoup d'autres endroits où on ne sait pas où ils sont, et puis maintenant il y a les radars des voitures de police camouflées, et il est question même d'en mettre davantage, enfin, etc., etc. Et ça représente, enfin au moins pour moi par exemple, mais je suis sûr que pour beaucoup d'entre nous, ça représente un souci, un stress. Quand on prend la voiture, on se dit, je prends le risque d'attraper un PV, et je regarde, donc je fais attention à cette obligation de respecter une certaine vitesse. Et ça ne fait pas toujours plaisir. Il y a bien des gens parmi nous qui signent des pétitions contre les radars ou contre la vitesse limitée. Il y en a qui, enfin bref, vous voyez tout ce que ça veut dire. Et il y a, dès qu'il y a une loi comme ça qui s'impose, pour beaucoup d'entre nous, ça crée une pression. Et ça, pourquoi ? Parce que on est réticent à un certain nombre d'obligations de ce genre. Or, c'était la même chose avec les obligations de l'Église. Les gens, j'imagine qu'en Pays Cordé, les gens qui entendaient les cloches pour appeler à une procession, pour ceci, pour cela, etc., ils disaient « Allez, encore, et encore, et encore ». Il y avait comme cela une pression permanente sur que les cloches réalisaient sur les gens qui étaient ici. Et il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que bon, ça crée une difficulté intérieure, un bouillonnement intérieur, comme nous aujourd'hui. Et on est fatigué, on en a marre. Et à cette époque-là, on le voit très bien quand on est ici dans le Midi et en Pays Cordé, avec toutes ces histoires de difficultés avec l'Église, avec les hérétiques, parce que quand on ne suivait pas les obligations de l'Église, on était considéré comme hérétique. Ici, on les appelait les cathares. Vous voyez, aujourd'hui, les gars qui prennent des PV pour excès de vitesse, au Moyen Âge, l'Église les aurait appelés des hérétiques. Et si on recommençait, eh bien, comme aujourd'hui, si on passe 3 ou 4 ans sans se faire prendre un PV, on retrouve les points sur le permis de conduire, eh bien, à cette époque-là, si on passait plusieurs années à se faire repérer par le curé du coin, on risquait quoi ? Le bûcher, hein ? Et on risquait l'inquisition arriver en disant « Allez hop, tu passes au tribunal, qu'est-ce qui se passe ? Ça fait 4 fois que tu viens, que tu manques à la messe, ça signifie quelque chose, etc. etc. » Et donc, ce n'était pas du tout un amusement. C'était, il faut vraiment se rendre compte que pour nous, Les cloches, bon, ben c'est bien, c'est sympathique, c'est joli à entendre parfois, mais pour à cette époque-là, vu que c'était le signe véritablement de l'obligation faite par l'Église, et donc écouter les cloches, c'était un appel à l'obéissance aux lois de l'Église et qui était stricte, il faut se rendre compte que donc c'était extrêmement stressant et extrêmement pénible. Regardez par exemple chez nous, ici à Cordes, il y a quelque temps, la cloche qui est sur la porte de l'horloge était en panne et il a fallu la réparer. Et elle a été réparée il y a quelque temps et de suite la sonnerie de l'horloge s'est mise à faire du boucan. Il y a des gens qui sont fatigués, qui sont réveillés le matin de trop bonne heure, qui voudraient supprimer la sonnerie de la cloche de l'horloge, d'autres qui voudraient la mettre une fois toutes les heures et non pas toutes les demi-heures. Enfin, vous voyez tout le brouhaha que ça représente pour pas grand-chose. Franchement, quand on regarde les problèmes du monde moderne, le problème de la sonnerie de la cloche de la tour de l'horloge de Cordes, c'est quand même pas, disons, le problème numéro un de notre vie aujourd'hui. Et pourtant, ça fait du bruit, vous voyez. Et donc, il faut profiter de cette question-là, des sonneries de cloches, pour se rendre compte que les cordés, au moment où ils cordent à commencer à vivre, les cordés se retrouvaient devant un problème énorme, un problème de stress provenant justement de ces sonneries de cloches qui rappelaient en permanence le pouvoir de l'Église sur les populations. Et on a intérêt à réfléchir à cela parce que ça peut nous aider à nous aujourd'hui à comprendre ce qui se passe. Et surtout que, à cette époque-là, il va y avoir un bouleversement, c'est que les cloches vont s'arrêter. Nous aussi, on s'arrête une minute.
CFM, CFM Radio, votre radio dans le Tarn.
I heard of the virtue of the patient heart. So I'll just stick around till you can tell me part. Oh, it's haunting the way I can't keep you off my mind. Is that same mind now making up its own signs? Guess I will know in time. And if I linger on till it comes in my direction, let me linger on till you give me your affection. And if I linger on till it comes in my direction, let me linger on till you give me your affection. They say I'm a fool for waiting such a long time, but don't be worried, darling. This fool said that he doesn't mind. You know where to find me at the end of the line. It's all about the right time.
I'm not in home now.
And if I linger on
till it comes in my direction,
let me linger on
to give me your affection.
And if I linger on, till it comes in my direction, let me linger on, till you give.
if I linger on till it comes in my direction, or let me linger on to give me your affection. And if I linger on till it comes in my direction, or let me linger on to give me your affection.
Corde 2022, Michel Bonnet. Je disais donc au sujet des sonneries de cloche que c'était quelque chose d'extrêmement prenant sur les gens, et nous nous retrouvons au XIIIe siècle, c'est-à-dire à l'époque de la fondation de Corde, on n'est pas à 6 mois après bien sûr, hein. Il se trouve qu'il y a un changement énorme qui se produit et qui se produit par l'apparition d'un objet. On n'en a pas, ils n'en existent, ils ont tous disparu en 800 ans, mais que les manuscrits appellent un horologium. Et on a pris l'habitude de traduire ça par le mot horloge. Est-ce que c'est une horloge exactement comme celle que l'on voit aujourd'hui, que on a autour de nous? Bon, on n'en est pas absolument d'accord, mais le fait est que les historiens sont en tous les cas d'accord pour dire que c'est grosso modo autour du XIIIe siècle que les premières horloges apparaissent. Alors, au début, c'est pas diffusé comme ça tout d'un coup, comme CFM se diffuse sur tout le midi de la France tranquillement à de telle heure à telle heure. Hein. Non, c'est venu progressivement, petit à petit, mais l'horloge a été inventée à ce moment-là, a été trouvée à ce moment-là. En fait, elle vient d'où ? Elle a été portée d'abord dans le midi de la France, et chez nous en Occitanie, donc, par les esclaves musulmans qui remontaient d'Espagne. Au fur et à mesure que les catholiques battaient les forces musulmanes de l'Andalousie, etc., les prisonniers, les soldats prisonniers, les esclaves, etc., venaient, et parmi eux, évidemment, il y avait des gars hyper pointus, des scientifiques, comme aujourd'hui, quoi, hein. C'est pas toujours des pauvres paysans qui meurent de faim, hein. Faut pas croire. Et ils sont arrivés, hein, ils avaient l'habitude de ces horloges, de produits, de choses, d'instruments mécaniques, donc, qui servaient à connaître l'heure. Ils avaient reçu ça, en fait, depuis la Perse, de bien plus loin encore, puisqu'on pense qu'elles ont été inventées en Chine. Mais c'est venu, donc, de l'Extrême-Orient, de l'Orient, jusque chez nous. Et ça s'est diffusé petit à petit, mais ça s'est diffusé extrêmement vite, parce que les gens ont trouvé que c'était commode, bien sûr, quoi. Ça a été un objet de luxe, comme on le voit aujourd'hui. Regardez, il y a 50 ans, les ordinateurs, il y en avait pas dans tous les coins des villages, hein. Et aujourd'hui, bon, ben pratiquement, on imagine presque difficilement une famille qui n'aurait pas accès à un ordinateur ou une tablette ou un smartphone. Bon, donc ça a apparu tellement commode. Et puis, au fur et à mesure que les gens s'en saisissaient, les artisans, etc., ils ont appris à les fabriquer, etc. Et donc, ça s'est diffusé très vite. D'abord, évidemment, dans les monastères. Et pourquoi ? Pour deux raisons. D'abord, parce qu'ils avaient les moyens. Ils étaient assez riches pour pouvoir se payer des instruments nouveaux, pour payer des artisans à fabriquer, à améliorer encore plus ces horloges, et puis sur autant, je dirais surtout, ils en avaient besoin, puisque pour eux, la journée était véritablement divisée, concentrée sur le rythme à suivre de toutes les prières, vous savez, toutes ces prières qu'on avait, matine, laude, nonne, sexte, vêpres, complies, etc., etc., les chants des psaumes, les rencontres, les réunions, etc., etc. Et donc, ils avaient un emploi du temps qui était, on dirait aujourd'hui, extrêmement minuté. Et c'était fait par le moine qui était chargé, comme il pouvait, de faire sonner les cloches à des heures données, en fonction du soleil, en fonction de la lune, etc. Mais tout d'un coup là, il suffit qu'il cale son horloge comme il faut, et hop, il sait qu'à telle heure précise, il y a une sonnerie qui va pouvoir être lancée. Et progressivement, donc, on va passer de la responsabilité de la sonnerie des cloches, qui était du domaine d'une personne humaine, à la responsabilité, si on peut employer ce mot, d'une machine. C'est complètement différent. Bien sûr, à la base, il y a l'organisation, mais c'est une évolution extrêmement importante, dont les gens se sont pas rendus compte, évidemment, à ce moment-là, mais les cloches, la sonnerie des cloches, elle avait pour but d'atteindre des personnes pour leur dire quelque chose. Fais ceci, fais cela, telle prière, arrête ceci, arrête cela, etc. Le but, donc, final, c'était de coller à des personnes qui avaient quelque chose à faire. Avec l'horloge, c'est complètement différent. Le but, c'est l'exactitude de l'heure. On s'occupe plus des populations jusqu'à un certain point, mais l'attention se porte sur le temps. Le temps pour calculer, diviser la journée à un certain nombre de d'heures, de minutes, peu importe, etc. Et donc, on voit de suite le changement progressif, bien sûr, petit à petit, où ce qui va être important pour ceux qui installent une horloge ou ceux qui mettent en lien une horloge et un clocher avec une sonnerie de cloche, etc., ce qui est important, c'est de faire attention au temps, l'exactitude, donc le lien avec le soleil, le lien avec la lune, etc. Et c'est comme cela que progressivement les horloges vont prendre le pouvoir, en quelque sorte, vont prendre le pas sur les sonneries des cloches. Ça devient important parce que qu'est-ce qui se passe pour les populations? C'est ce qui nous intéresse plus que les monastères. C'est pour les populations, pour nous qui, les populations qui vivent autour des monastères ou autour des églises, etc. Car ce qui nous, par quoi on est surtout concerné, autrefois comme aujourd'hui, par ce qu'on fait dans la journée, par nos activités, et l'essentiel des activités pour l'essentiel des populations, et plus on est pauvre, plus c'est important, c'est le travail. C'est le temps de travail qui va nous dire, eh bien, on peut manger, on peut s'arrêter, on peut dormir, etc. Or, vous savez qu'à l'époque, le monde des humains, la population, dans le milieu occidental, ailleurs, c'est pas aussi clair, hein, mais était divisé en trois grandes catégories. Il y avait le monde des religieux, qui était celui qui s'occupait de la prière et de la relation avec les divinités. Il y avait le monde des guerriers, le monde des chevaliers, ceux qui s'occupaient de la guerre et donc de la paix, de la politique. Ça, c'était la deuxième catégorie de population. Et puis, il y avait tout le reste, dans lequel on mettait les travailleurs. On disait la population, les travailleurs. Or, ce monde-là, des travailleurs, grâce à l'horloge, il va tout d'un coup prendre une distance, une certaine distance, très très lentement, mais vis-à-vis des obligations qui sortent de l'Église. C'est-à-dire que il va organiser son temps en fonction de son travail et non plus en fonction des lois qui viennent d'ailleurs d'une idéologie ou d'une religion ou d'une politique, etc. Le travailleur, lui, il est polarisé en quelque sorte, il est complètement attaché par le lien qu'il y a entre ses mains, son geste, son corps, disons, pour aller vite, son geste de travail et la matière sur laquelle il travaille. Que ce soit la terre, que ce soit du bois, que ce soit des plantes, que ce soit du fer, du ciment, des pierres, etc., etc. C'est ce lien-là qui est le cœur même de sa vie de travailleur. Et ça, il va avoir tendance à l'organiser, non pas parce que quelqu'un, un évêque ou quelqu'un a donné des ordres, mais parce que il faut tant d'heures pour creuser telle tranchée, il faut tant de minutes pour faire prendre la chaux et faire du ciment, ainsi de suite. C'est en fonction donc de ce travail-là que on va pouvoir progressivement organiser son existence. Et donc, on a avantage, on a intérêt, et les travailleurs le voient très bien, et ceux qui s'occupent parmi les travailleurs, il n'y a pas que les travailleurs subalternes, à l'époque, il y a les patrons de petites entreprises, les maîtres artisans, etc. C'est, cette distanciation à l'intérieur du monde du travail n'est pas encore aussi claire qu'aujourd'hui, mais ce monde du travail, donc, se met à évoluer, à changer, et on s'aperçoit, par exemple, à partir du 12e, 13e siècle, c'est l'époque où les métiers s'organisent. Et on va avoir des horaires de travail selon tel métier dans le bâtiment, ou quand on est tisserand, ou quand on est paysan à labourer les champs, etc. Donc, vous voyez, ce changement, le monde des hommes, enfin la population, petit à petit, s'organise en fonction du travail grâce à l'arrivée de l'horloge. Principalement à l'arrivée de l'horloge. Si bien qu'on peut dire, j'exagère peut-être un peu en disant ce mot-là, mais sur le long terme, quand on regarde sur une période de plusieurs centaines d'années, on peut dire que l'horloge a été l'instrument, l'outil qui a été une libération pour les travailleurs. C'est le centenaire, le huitième centenaire de l'horloge, c'est en même temps le centenaire de la libération des travailleurs par rapport à cette pression des sonneries de cloches et donc par rapport à la pression de l'Église sur le monde du travail. On va s'arrêter une seconde.
CFM Corde. Trois lettres, un esprit, le rock.
Faisant des triple axels sur le sol glacé. Avant de remonter dans la nacelle, se réchauffer à la chaleur de nos baisers. La flamme aux lèvres, la langue dans ta poche, je danse dans ta bouche, une lampe sur les joues. À faire de la varap sur les parois de paraffine. Et juste avant l'oubli de la dernière lampée, descendre en rappel les stalactites du cierge, fondu sur le boulot, et entendre craquer les glaciers dans nos verres de sirop. Faisons des triple axels sur le sol glacé, avant de remonter dans la nacelle, se réchauffer à la chaleur de nos baisers. Faisons des triple axels sur le sol glacé, avant de remonter dans la nacelle, se réchauffer à la chaleur de nos baisers. Mais dis-moi, sais-tu jusqu'à quel âge on tutoie les enfants? On n'arrête jamais, allant chercher le pain, de manger le quignon sur le chemin. Malgré la moustache en toison circonflexe de ma virilité noircie, au petit bouchon d'un château de sable, du pâté de maison, faisons des triple axels sur le sol glacé avant de remonter dans la nacelle, se réchauffer à la chaleur de nos baisers. Faisons des triple axels sur le sol glacé avant de remonter dans la nacelle, se réchauffer à la chaleur de nos baisers. Un peu maman pour le soir et les histoires. On allume un peu papa pour les sorts quand il fait froid dehors. On éteint un peu maman pour le soir et les histoires. On allume un peu papa pour les sorts quand il fait froid dehors. Faisons des triple axels sur le sol glacé avant de remonter dans la nacelle, se réchauffer à la chaleur de nos baisers. Faisons des triple axels sur le sol glacé avant de remonter dans la nacelle, se réchauffer à la chaleur de nos baisers. Faisons des triple axels dans la nacelle, à la chaleur de nos baisers.
Corde 2022, Michel Bonnet. Nous disions donc que la disparition de cette habitude de régler l'existence avec les sonneries de cloche disparaissait au XIIIe siècle, progressivement, petit à petit, commençait à disparaître avec l'invention et la diffusion des horloges. C'est-à-dire que on passait de l'énergie humaine qui faisait sonner les cloches en tirant sur les cordes ou en tapant sur les cloches, on passe à une énergie mécanique, celle de la main, celle de l'horloge qui est en quelque sorte une petite machine. Vous voyez, ce changement d'énergie est extrêmement important et il influence par conséquent les gens qui sont touchés par ça, et notamment les gens qui sont très marqués par le calcul du temps, du temps et du temps de travail, ce qui est le problème de la plus grande masse des populations. On peut donc dire que avec l'arrivée de l'horloge, c'est un début de libération des travailleurs, enfin de la population, un début de libération par rapport à l'emprise de la religion et de l'Église. Et on voit où ça mène. Il faut regarder l'histoire sur le long terme, parce que là, on prend le départ vers, vous allez sourire, mais vers 1789, le moment où les Français vont dire, eh bien, l'État est laïque, on n'est plus au service de la religion c'est indépendant, et donc on fait ce qu'elle veut, chacun fait ce qu'il veut avec le problème religieux, et donc une libération qui a mis des siècles à s'exprimer au niveau national, même encore il y a des gens qui sont pas très contents, mais vous voyez comment un instrument comme l'horloge est arrivé et a bouleversé les habitudes d'une population, les habitudes de penser, etc. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que justement, nous sommes de nouveau à une période aussi importante que le XIIIe siècle, et c'est pour ça qu'il faut faire de 2022 une date centrale dans nos existences. C'est que on commence à faire disparaître les horloges. Regardez, nous avons l'habitude d'avoir une montre au poignet. Presque, on ne sait même pas qu'on l'a. Elle est là en permanence, on prend sa douche avec, bref, on vit toujours avec ça, on ne s'en occupe pas. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que progressivement, les mécanismes qui font tourner, font calculer le temps par l'horloge, ne dépendent plus d'une force, d'une énergie mécanique, mais ils dépendent de la lumière. On s'aperçoit aujourd'hui, on le sent, vous le voyez très bien, etc., que la division du temps par les horloges est en train de changer, et elle est passée heure par heure, on divise les journées avec des heures, puis les heures avec des minutes, et puis les minutes avec des secondes. Jusque-là, ça va, c'est pas très compliqué. Mais quand on descend beaucoup plus profondément dans le détail des secondes, des centièmes de secondes, des millièmes de secondes, etc., tout d'un coup, on s'aperçoit qu'on dépend d'une autre énergie qui n'est plus l'énergie mécanique, mais l'énergie de la lumière. Et c'est progressivement un autre type d'énergie qui va calculer le temps finalement à notre place. Or, c'est un sacré changement. Là, on en est tout à fait au début, mais pourtant, regardez, personne va se scandaliser outre mesure si on va à une réunion en disant on arrive 10 minutes en retard, on dit oh c'est le quart d'heure toulousain ou c'est le quart d'heure cordé ou le quart d'heure albigeois. Et pourtant, dans le même moment où on est assez relax par rapport à ça, si on appuie sur la touche de notre ordinateur et que la réponse de l'écran met plusieurs minutes au lieu de venir en plusieurs secondes, de suite on s'énerve, on se dit et qu'est-ce qui se passe alors, SFR ou je sais pas qui, ils sont quoi là, et il faut que j'aille faire réparer mon appareil, etc. Tout d'un coup, cette accélération qui est en train de s'installer ici, cette accélération, qu'est-ce qu'elle a? Quel est le fond de cette accélération? C'est que la relation entre le lieu et le temps, le lieu où se trouvait le clocher autrefois, ou la cloche, et puis après l'horloge, etc., et le temps que chante, cette relation est coupée. Elle n'existe plus. D'un bout à l'autre de la planète, et même quand on part avec dans la stratosphère, etc., qu'on va monter sur la Lune et tout le reste, le lien temps et lieu disparaît. Or, en ce moment, c'est un problème qui commence à venir à l'intérieur de nous-mêmes, dans nos communautés, dans nos vies aussi. On le voit avec le Covid-19. Pourquoi ? Parce que se met en route, disons, se développe le télétravail. C'est un bouleversement incroyable. Quand dans 100 ans d'ici, sans doute que les gens souriront des difficultés que nous avons eues à assumer ce changement par le télétravail. Les jeunes aujourd'hui, quand ils pensent à l'avenir, certainement ne voient pas le télétravail comme moi, à 90 ans, je le regarde, et ainsi de suite. Donc, nous sommes en ce moment dans une époque profondément de profonds changements et des changements qui, à la fois, viennent perturber nos rythmes individuels, physiques, qui sont liés avec le soleil, la lune, le climat et tout le reste, mais également perturber nos habitudes, parce qu'elles viennent d'il y a très longtemps, hein. L'habitude de dormir la nuit plutôt que le jour, travailler le jour plutôt que la nuit, des choses comme ça, ce sont de vieilles habitudes sociales, et donc on est dans une période de changement, de bouleversement, et ça fait mal. Ça fait mal parce que on ne sait pas trop où on va. Et en effet, aujourd'hui, pas seulement à cause des élections présidentielles qui se préparent, on se dit que 2022, ça nous bouscule, bien sûr, pas seulement 2022 nous bouscule parce qu'on ne sait pas trop comment on va faire les fêtes du 8e centenaire, mais parce qu'on se dit que demain, avec quand on voit les rapports du GIEC, quand on voit les réunions qui se passent au niveau du changement climatique, de la biodiversité, du développement durable, on se dit mais où allons-nous ? On ne le sait pas trop et on est extrêmement perturbé. Et c'est pour ça qu'il faut, je pense personnellement que de regarder l'histoire avec le recul que peut nous donner justement de comparer ce 13e siècle qui a été un grand virage dans les civilisations au moins occidentales et puis ce virage que l'on est en train de prendre au niveau planétaire avec les bouleversements climatiques etc. C'est important de le voir avec un peu de recul pour se dire que il faut trouver des méthodes qui nous amènent à vivre un peu, sans trop se stresser, sans trop perdre de l'élan, sans trop se décourager par rapport à l'existence. Je trouve que c'est dommage que la fatigue qui nous est imposée par tous ces changements, le stress qui nous est imposé par tous ces changements, c'est dommage que ce soit que ça nous amène à abandonner l'idée que on pourrait mener une vie chaque jour plus intéressante, plus valable, en progrès et non pas en déclin. C'était Corde 2022 avec Michel Bonnet. Juste.